Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Après la Libération, le Conseil national de la Résistance créa la Sécurité sociale.
Elle est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, dans des conditions décentes, par un financement solidaire fondé sur le travail ou les richesses produites par le travail.
La Sécurité sociale a fêté ses 75 ans, comme on peut l'entendre dans ce petit film réalisé par la CGT, en hommage à cette grande dame de la Libération. Une grande dame qui a pris tout de même un coup de vieux pendant la crise sanitaire et qui semble avoir quelques fuites, ou du moins un gros trou, difficile à combler. Le 28 juillet dernier, en plein préparatif du chassé-croisé de l'été, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonçait mettre à l'étude le scénario d'une grande sécu. 4 mois plus tard, celle-ci pourrait bien avoir déjà du plomb dans l'aile.
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Tous les jours, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter un sujet de l'actualité économique, financière et sociale. Aujourd'hui, on va s'interroger sur l'avenir de la sécurité sociale, qui n'aura pas tout d'une grande.
Réduire le champ d'intervention des mutuelles ou des assureurs.
L'évolution de la sécurité sociale, l'évolution de la part de l'assurance maladie, ça fait partie d'une réflexion. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de programme. Ben, invitez-moi, on pourra en parler. Il faut un peu de temps pour l'expliquer.
Élargir,
ça paraît technique.
Ça veut dire quoi ? Élargir le champ d'intervention de la sécurité sociale.
Ça veut dire que ce qui relève de la santé serait pris en charge par l'assurance maladie au titre de la santé.
Et
ça
veut plus dire par les mutuelles.
Et ça veut dire qu'on pourrait développer, de l'autre côté, la part de prévention, d'éducation thérapeutique, nous appuyer davantage sur les complémentaires pour le numérique en santé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je vous dis, j'ai semé des petits cailloux dans la crise sanitaire. Tout a été pris en charge à 100% par l'assurance maladie et je n'ai vu personne s'en plaindre.
Au milieu de questions sur le paiement des dons de sperme et sur les hausses des complémentaires santé, les deux ne sont pas liés, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a évoqué en octobre dernier avec Jean-Jacques Bourdin sur RMC l'avenir de la Sécu. Le nom de grande Sécu n'a pas été prononcé, mais la question de la réduction du champ d'intervention des mutuelles et des assureurs est bien au cœur de ce projet souhaité par le ministre de la Santé. C'est peu dire que les professionnels de la médecine et de l'assurance y ont peu goûté. Vous avez le choix entre tir de barrage et levée de bouclier. Il y a une sentence assez imagée qui m'a marqué. La grande sécu, cela ressemble à Cuba sans le soleil. Les mots sont de Florence Lustmann, présidente de la Fédération française de l'assurance. La grande sécu a-t-elle vécu avant même de voir le jour ? Pourquoi une telle opposition ? Pour le comprendre, on va revenir aux sources du projet avec Solveig Godeluc, spécialiste des politiques de santé aux Échos. Bonjour Solveig.
Bonjour.
Avant de parler de ce projet mis en avant par Olivier Véran, le ministre de la Santé, dans quel état se trouve la sécurité sociale après 2 années de crise sanitaire ?
Comme on pouvait s'y attendre, ça ne va pas très très fort. C'est-à-dire qu'il y a encore quand même pas mal de déficits. On a encore 35 milliards cette année, on va avoir 22 milliards l'année prochaine. Donc financièrement, ce n'est pas génial. Mais le problème n'est pas uniquement financier, je dirais même plus qu'il y a surtout le trauma psychologique de l'hôpital. Ces professionnels de santé qui ont vécu pendant 2 ans avec une pression incroyable n'ont pas besoin uniquement d'argent, mais ils ont besoin d'être soutenus et ils ont besoin peut-être d'un système de santé qui se réforme. Donc voilà où en est la Sécu.
Il y a quelques semaines, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donc demandé au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie de réfléchir à la façon dont fonctionne ce service articulé entre le public et le privé. Il devait rendre son avis d'ici à novembre. Ça a pris un peu de retard parce qu'on n'y est toujours pas. On va y revenir. Quels étaient les scénarios possibles, Solveig ?
Alors, je tiens d'abord à préciser qu'initialement, c'est le Haut Conseil, le HCAM lui-même, qui s'est saisi de la question et il a produit un premier rapport dès le mois de janvier dans lequel il a effleuré très rapidement les quatre scénarios. C'est ensuite le ministre de la Santé qui a rebondi et qui l'était dernier à demander au HCAM de creuser certains scénarios et surtout de mettre un financement en face, notamment des schémas les plus disruptifs, dont la grande sécu, qui est celui qui l'intéressait beaucoup. Alors, quels sont ces quatre scénarios ? On a d'abord un scénario de statu quo. Pas tout à fait un statu quo quand même, parce qu'il y a des petites réformes à la marge qui permettent de résoudre certains des problèmes du système actuel. On a ensuite le fameux scénario de la grande sécu, qui voit agrandir la taille de la sécu et ses compétences en matière de remboursement de frais de santé. Ensuite, un troisième scénario qui serait un scénario d'assurance complémentaire obligatoire, donc vraiment universel, un petit peu comme l'Agirc-Arrco dans le système de retraite, un peu comme le deuxième étage du système de retraite. Et enfin, un quatrième scénario, le scénario du décroisement des responsabilités, du financement de chaque risque, où on verrait pour chaque risque un payeur. Donc, les complémentaires, par exemple, pourraient financer intégralement l'optique, ce qu'elles font déjà quasiment aujourd'hui, mais on verrait plus du tout la sécu. Ou bien certains médicaments qui sont aujourd'hui pas très bien remboursés et donc il leur reviendrait de gérer le remboursement intégral de ces médicaments-là.
Il y a donc un des scénarios qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celui de la grande sécu. En quoi ça consiste ?
Comme son nom l'indique, c'est un scénario où la Sécu occupe à peu près tout le terrain, sauf quelques domaines réservés aux complémentaires santé qui sont vraiment réduites à la portion congrue. Je pense par exemple aux chambres particulières à l'hôpital ou bien aux dépassements d'honoraires. Donc l'assurance maladie obligatoire paierait en quelque sorte le ticket modérateur pour les soins de ville et puis tous les tarifs journaliers à l'hôpital. Ce serait un petit peu comparable au système actuel pour les affections longue durée, ces maladies chroniques qui sont prises en charge à 100% par la Sécu.
Solène Poulenec, vous êtes journaliste aux Échos. Vous suivez-vous le monde de l'assurance ? Comment cette idée d'une grande Sécu a-t-elle été accueillie par les intéressés ?
Mal, très très mal. Alors, ce n'était pas vraiment une surprise pour les assureurs, parce que ça faisait un bout de temps, en fait, qu'il y ait des signaux sur l'idée que le système de santé et la prise en charge des soins, elle ne fonctionne pas très bien, elle n'est pas satisfaisante. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui était très critique encore récemment sur la valeur ajoutée de l'assurance santé. Et donc, les assureurs n'étaient pas surpris, ça faisait un bout de temps qu'ils étaient sur leur garde, mais le scénario de grande sécu, non, ils sont vraiment contre, et ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde de l'assurance, parce que c'est un monde assez fragmenté, où il y a des assureurs qui ont des cultures assez différentes, il y a les capitalistes, les mutualistes, les paritaires, et donc là, ils ont tous fait front contre ce projet de grande sécurité sociale.
Alors, qu'est-ce qu'ils reprochent justement à ce plan ?
Grosso modo, ils disent « ça ne va pas servir les assurés, ça va être un système de santé à deux vitesses. » Parce que la sécurité sociale va prendre en charge les soins de la plus grande partie de la population. Et disent-ils, les plus aisés vont se tourner vers des assureurs santé pour prendre en charge leurs soins plus rapidement, avoir accès aux médecins qu'ils veulent, dans la bonne clinique qu'ils veulent. Et donc, ça serait un système distillé à l'anglaise où il y aurait une partie de la médecine qui serait fonctionnarisée avec un médecin qui est vraiment le premier partenaire de la sécurité sociale, qui fonctionne très, très étroitement avec lui. Il n'y aura pas de dépassement d'honoraires. Et de l'autre côté, un système complètement privé. Et donc, qui dit fonctionnalisation d'une partie de la médecine, disent-ils, ils disent aussi moindre choix de son praticien, de son médecin.
Est-ce que ça signifie la fin des mutuelles de santé, comme on a pu parfois le lire ?
En tout cas, quand on lit le scénario du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui est un scénario, il est clairement écrit qu'on réduit la part des complémentaires santé, comme l'a dit Solveig, à portion congrue. Il y a une hypothèse de 70% de leur activité qui disparaît. Et d'ailleurs, le scénario du HCAM, le HCAM pose la question de l'emploi des complémentaires santé. Ils disent à un moment, il va falloir se poser la question de l'affectation des personnes qui travaillent chez les assureurs santé. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on va les réintégrer ? Est-ce qu'on va les reconvertir ? Mais c'est quelques lignes. Alors forcément, les assureurs s'en sont saisis et ils disent « Non, mais c'est 100 000 emplois qui sont menacés, c'est la catastrophe pour aussi un secteur de l'économie. »
Les autres scénarios du Haut Conseil, est-ce qu'ils sont plus acceptables finalement pour les assureurs et les mutuelles?
Les assureurs maintenant ont un problème avec le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Ils disent, bon, c'est une instance qui est censée être une instance indépendante de concertation où tout le monde se met autour de la table, les assureurs, les médecins, les représentants de l'État. Et là, grosso modo, ils disent, bon, c'est une instance téléguidée, on n'a pas envie de légitimer tel ou tel scénario, ça ne nous intéresse plus. Le scénario a été publié dans les échos de Grande Sécu avant même qu'on ait pu y avoir accès. Tout ça est complètement téléguidé, c'est idéologique, on ne veut pas rentrer là-dedans. Ce que disent les assureurs, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le système de prise en charge des dépenses de santé des Français, aujourd'hui, il n'est pas si mal. Parce que finalement, les Français, quand on regarde dans les pays de l'OCDE, ils payent très peu de leur poche pour leurs soins. Ils ont un reste à charge qui est le plus faible des pays de l'OCDE, disent-ils. Donc, OK, peut-être qu'il y a des choses à perfectionner. Et ils disent qu'il y a des choses à perfectionner, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tout renverser. Et ils disent aussi, bon, est-ce que la vraie question, c'est comment est-ce qu'on répartit la facture entre les assureurs santé et la sécurité sociale, sachant que, grosso modo, vous comme moi, on n'est peut-être sans doute jamais très au clair sur qui va payer quoi, sur tel ou tel soin. Alors, c'est mon assureur, c'est la Sécu, bon, je ne sais pas très bien. On n'est jamais très au clair, mais est-ce que c'est la question? Ou alors, les assureurs disent, non, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a accès à un médecin quand on veut? Il y a des déserts médicaux, il faut faire de la prévention. Bref, en fait, ils renversent un peu le débat en disant, mais c'est mal posé comme question, il faut voir le système de façon plus globale.
Ouais, c'est-à-dire qu'avant de repenser la sécu, il faut peut-être repenser la façon dont on soigne les gens?
Non, enfin, je pense que ça vient après quand même. Enfin, je veux dire, tout ça vient ensemble, puisque la façon dont on soigne les gens, c'est intimement lié à la façon dont on rémunère les soignants. Je prends l'exemple du forfait. Comment on fait pour développer le paiement au forfait? Comment on répartit la charge aujourd'hui entre les deux payeurs sur cette histoire de forfait? Et puis ensuite, comment on redivise entre tous les soignants? C'est une réorganisation complète du système de santé. C'est difficile de faire l'un sans l'autre, en fait. Il faut penser le financement et l'organisation, surtout la gouvernance, au même moment que cette réorganisation du système. Et on voit bien, parce que cet objectif de réformer les modes de fonctionnement du soin, ça existe depuis longtemps, c'est un rêve depuis longtemps, mais c'est extrêmement difficile à mettre en place. Les organisations ne sont pas là, les réflexes ne sont pas là. Chacun a peur d'y perdre. Les médecins libéraux sont très attachés, en grande partie, à leurs honoraires.
Alors, Solveig, on n'a pas évoqué encore la question des médecins. Hein. Le projet de Grande Sécu a aussi fait l'unanimité contre lui auprès de la profession.
Oui, effectivement, les médecins, ils ont très peur d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie de leur rémunération, enfin, une partie, disons, non négligeable, dépend des dépassements d'honoraires. Et la liberté aussi de choix de son patient, enfin, tout ça, c'est tout à fait lié. Et donc, ils ont très peur que dans un système demain géré par la Sécu, ils aient plus leur mot à dire et que leurs dépassements soient fortement réduits, puisque les dépassements, ils seraient pris en charge par des assureurs complémentaires qui deviendraient de tout petits acteurs avec une démutualisation très forte. Donc forcément, ça serait plus difficile de faire payer ces dépassements à tout le monde. Le public capable de subir ces dépassements deviendrait plus restreint. D'un autre côté, il faut quand même souligner le fait que les médecins de ville, ils aimeraient bien n'avoir plus qu'une tête qui dépasse. C'est-à-dire qu'eux, ils ne veulent pas traiter avec les assureurs complémentaires. Ils veulent avoir juste un payeur qui est la Sécu, parce que c'est plus facile, il faut reconnaître, d'avoir un seul payeur pour eux, et que la Sécu s'occupe finalement derrière des complémentaires. Donc, ils ont une position un peu ambivalente là-dessus.
Solène, vous vouliez ajouter quelque chose?
Un des grands arguments des assureurs, c'est qui dit grande Sécu dit bouleversement de la médecine libérale, moins de dépassement d'honoraires possible et sans doute moins de choix pour son praticien. Et pour finir sur les assureurs, ce qui leur semble important, c'est que en fait, ils se considèrent comme partenaires de seconde zone de la sécurité sociale. Ils disent, nous, on est hyper réglementés, on nous impose toujours des choses et on a un système de santé à perfectionner. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à discuter vraiment avec la sécurité sociale de tout ce qui est régulation de l'offre de soins, donc les dépassements d'honoraires, comment on fait mieux de prévention, comment on évite qu'il y ait une inflation des prix pour des médicaments ou que sais-je encore. Et là-dessus, c'est grosso modo une des grosses propositions qu'ils font, c'est qu'il faut qu'on réforme la gouvernance du système pour que les assureurs, qui après tout prennent en charge une bonne partie de la facture, aient vraiment plus voix au chapitre qu'aujourd'hui dans la régulation de ce système de santé. Bon, je ne vous surprendrai pas si par ailleurs, je vous disais qu'ils disent qu'ils sont trop taxés, quoi. Et d'ailleurs, ils l'ont dit encore dans nos colonnes, hein, non mais c'est pas normal que les complémentaires santé, ça soit plus taxé que les hamburgers, c'est scandaleux, il faut aussi baisser notre taxation.
On attend très tranquillement le retrait du plan Juppé, une discussion sérieuse pour une protection sociale moderne, efficace, rénovée, et on attend qu'on mette à plat l'ensemble des aspirations que le monde du travail porte.
Il y avait du monde dans la rue à Marseille en décembre 1995 pour protester contre le projet de réforme de la sécurité sociale du Premier ministre Alain Juppé. C'est une archive de l'INA. Depuis de nombreuses années, plus récemment encore, un certain agite le spectre de la fin de la sécurité sociale au profit du secteur privé, hein, le spectre de la privatisation. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse. Sans rentrer dans la polémique, Solveig, quel serait l'intérêt d'un tel système de grande sécu ?
Je vais peut-être revenir à ce que vous disiez juste au début. Vous faites référence, je crois, à François Fillon et à son programme pour la présidentielle au moment où il avait commencé à parler justement de notre quatrième scénario, le scénario, souvenez-vous, du décroisement des financements, un payeur par risque. Mais à l'époque, il faut dire qu'il s'était un peu pris les pieds dans le tapis. On avait parlé de petits rhumes, de gros rhumes et de... Voilà, c'était quand même extrêmement difficile de détourer tout ça. C'était assez maladroit comme intervention. Et ça n'a pas du tout... Ça a fait pchit et ça a même plutôt nuit au candidat Fillon. Ça a surtout permis de montrer que les Français étaient très attachés à leur sécu. Et je vous rappelle le slogan, hein, la ligne de conduite, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. Ça, c'est vraiment la sécu publique, la sécu d'aujourd'hui. Voilà, les Français, ils sont très attachés. Alors, qu'est-ce que ce serait que la grande sécu, justement, dans cette optique-là, en suivant ce leitmotiv ? Alors, ça permettrait tout d'abord que tout le monde soit couvert. Parce qu'aujourd'hui, il y a une proportion très grande des Français qui ont une complémentaire santé, notamment grâce à la complémentaire obligatoire en entreprise. Mais ça ne reste que 96%, donc il y en a encore 4% qui sont à l'extérieur de tout ça. Et quand ils se retrouvent à l'hôpital et que, par hasard, ils font partie de ces rares patients qui ont des dépassements énorme, c'est quand même très ennuyeux. Voilà, donc ça, c'est le premier avantage. Il y a aussi une question de péréquation, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à couvrir les personnes âgées, les seniors. C'est un peu la double peine pour elles, parce qu'elles payent leur contrat plus cher, leur contrat complémentaire coûte plus cher. Elles ont aussi beaucoup plus de soins. Elles prennent des garanties qui sont généralement moindres, parce que ça leur coûte cher. Et au bout du compte, elles sont moins bien couvertes pour un coût plus élevé que le reste des Français. Ce qui est un petit peu contraire à notre principe de la sécurité sociale dont on parlait au début, à chacun selon ses besoins. Alors, l'autre avantage qui est toujours mis en avant, c'est de faire des économies de gestion. Donc, le Haut Conseil les a chiffrées à environ 5 milliards. Ça ne représente pas la totalité des frais de gestion des complémentaires santé, puisque dans son schéma, il demeurerait une partie de complémentaires santé suite à la réforme de la grande sécu. Il y a un détail aussi à préciser, c'est les hôpitaux. Hein. Martin Hirsch, à la PHP, a régulièrement répété que ça serait bien de faire la grande sécu, notamment parce qu'avec cette double comptabilité et cette multitude d'interlocuteurs complémentaires santé, il y a une paperasserie énorme. Alors, je ne sais plus à combien, je crois qu'il chiffrait à plus de 1000 personnes, les administratifs qui font justement toute cette paperasserie. Et il disait que ça ferait beaucoup d'économies. Et puis enfin, il faut quand même pas oublier ça, pour le patient, la grande sécu, ce serait un gage de tranquillité par rapport à son reste à charge, tout simplement. Il y verrait plus clair, il saurait combien tout ça va lui coûter. C'est pas très facile de s'y retrouver aujourd'hui entre les multiples tarifs des uns des autres, les degrés de remboursement. Et je ne dis pas que c'est la faute des complémentaires. Je veux dire, c'est, le régulateur a joué un rôle là-dedans.
5 milliards d'économies, ça fait réfléchir, mais on n'a pas dit combien coûterait une grande sécu.
C'est un petit peu le problème. Hein. C'est que le coût de la grande sécu, même si c'est censé à terme être neutre, puisque c'est juste un transfert d'argent qui passe d'une poche à une autre, ce serait tout de même 22 milliards. Donc, c'est un point de PIB. C'est l'équivalent du déficit 2022 de la Sécu. Et ça fait augmenter énormément le niveau des prélèvements obligatoires. Donc, c'est peut-être ce qui dissuade un petit peu nos gouvernants d'avancer sur ce sujet.
Solveig, on voit l'opposition est forte hein, contre ce projet de grande Sécu. C'est un agitateur dans une campagne présidentielle qui démarre, qui s'annonce assez heurtée. Xavier Bertrand a dénoncé la folie que serait la grande Sécu d'Emmanuel Macron. On peut s'étonner de l'ouverture de ce front, de ce sujet inflammable par Olivier Véran à quelques mois du premier tour ?
Pas forcément, moi je m'en étonne pas tant que ça. Je trouve que la période est assez bien trouvée. Bon, déjà, on est sûr qu'on va pas faire la réforme en fin de quinquennat parce que c'est une trop grosse réforme. Donc là-dessus, on est relativement tranquille. C'est pas une réforme pour l'instant, c'est un petit peu de l'agit-prop en quelque sorte. Et c'est de l'agit-prop qui tombe à pic pour le gouvernement. D'une part, on est à la veille du moment où les complémentaires santé vont fixer leurs tarifs pour l'année suivante, donc avec généralement des augmentations de cotisations. Donc, ce que veut le gouvernement, c'est les augmentations les plus faibles possibles, puisqu'on est en période de campagne électorale et il ne faut pas que le pouvoir d'achat des Français souffre. Donc, c'est un bon levier pour les pouvoirs publics sur les complémentaires santé. On maintient une bonne pression. Et puis, le deuxième argument, c'est que est-ce que tout ou partie de ces scénarios de rupture vont être intégrés dans un programme électoral d'un candidat ? Je ne dis pas que le candidat Macron va reprendre le programme de la grande sécu, mais il y a peut-être des choses à récupérer là-dedans. Et alors, il y a au moins une bonne chose à retirer de tout ça, c'est qu'on va peut-être avoir une réflexion sur la réforme de notre système de santé qui est étonnamment absente de cette campagne électorale après les 2 années de Covid qu'on vient de vivre et alors qu'on vient de se rendre compte dans quel état a été notre hôpital et de tous les dysfonctionnements de notre système de santé.
Solène, c'est aussi dans l'esprit d'une campagne que les assureurs, les mutuelles ont rappelé les enjeux sociaux autour de cette réforme ?
En tout cas, les assureurs sont persuadés qu'avec la crise du Covid qui a mis vraiment au premier plan la question de la santé, le sujet de la santé et bien sûr du coût des soins pour les Français va intervenir dans la campagne. Donc, ils ont déjà préparé le terrain, ils travaillent ensemble, ils essayent de travailler ensemble pour faire des propositions. Et évidemment, ils ont tout de suite fait un tir de barrage contre ce scénario de grande sécu pour les raisons que je vous ai expliquées, parce qu'ils ne veulent pas que le débat s'engage très très mal à leurs yeux. Mais sur la question du système de santé, ils savent qu'il y a effectivement la question des seniors, du coup la complémentaire santé pour les seniors qui est un sujet très sensible. Donc ça fait un bout de temps qu'ils essayent de réfléchir à ça. Alors on entend diverses choses d'ailleurs de la part des assureurs sur ce sujet, mais ce qu'on entend parfois c'est, attention, peut-être que la santé des seniors et notamment les personnes très très âgées qui sont devenues extrêmement dépendante. C'est plus un sujet, pour le coup, de solidarité nationale, comme le disent certains, et donc qui devrait revenir à l'État, qu'à l'assurance santé, qu'au système privé, parce qu'on est dans une fraction de l'âge des personnes où finalement les soins s'enchaînent. Et là, l'assureur dit, l'assureur, il n'y a plus d'aléas pour l'assurance, c'est une personne qui va ne faire que soins sur soins, parce que malheureusement, elle a 96 ans, etc. Donc, il y a des sujets, effectivement, qui savent sensibles et sur lesquels ils veulent préparer le terrain à l'approche de la campagne, bien sûr.
Ah, c'est pas encore une réforme, c'est de l'agit-prop, hein, c'est ce que vous disiez, Solveig. On peut penser que le projet est mis sous le tapis à court terme, ça veut dire que la sécurité sociale est intouchable en l'État ?
Absolument pas, au contraire. Moi, je pense que la sécurité sociale, elle est à l'aube de nouveaux bouleversements et que la crise du Covid, justement, a mis le doigt, enfin, comme je le disais tout à l'heure, a mis le doigt sur ce qui ne fonctionnait pas. Et que si on en parle maintenant, c'est justement parce qu'on sent le besoin, et les pouvoirs publics ne sont pas les seuls à le sentir, hein, les complémentaires santé, même si aucun des scénarios ne leur convient, disent aussi « oui, effectivement, il y a des trucs qui doivent bouger ». Donc non, la Sécu va bouger. Je ne peux pas vous prédire à quelle vitesse. Mais si ça n'est pas porté sur le terrain politique, si ce n'est pas un débat de la présidentielle, c'est la technocratie qui va le faire. Moi, je pense que c'est une bonne idée de le porter dans les programmes de campagne.
Le HCAM devrait rendre son rapport au plus tôt le 16 décembre prochain. Merci Solveig Godeluc et Solène Poulenec de la rédaction des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.